VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Ouagadougou, midi à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Bénin, on connaît depuis hier les résultats des élections municipales et locales après plus de deux semaines de dépouillement. Les partis de l'opposition ont gardé leur fief traditionnel et le FCBE du président Boni Yayi est en recul. Le reportage de notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Dans l'arrondissement de Ouida 4 sont respectivement élus M. Adjovi Serin et M. Adjovi Bruno. Dans l'arrondissement de Paou sont respectivement élus au titre de la liste AND, Adjanon Clotaire Célestine.
C'est là un extrait des résultats tels que proclamés par la Commission électorale nationale autonome qui, par la voix du coordonnateur au budget de l'institution, révélait les choix des populations de la 5e circonscription électorale regroupant Paou, Ouida, Alada, Tofo et j'en passe, situé dans le département de l'Atlantique au sud-ouest du Bénin. À la lumière des résultats ainsi proclamés, la liste RBRP de l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo vient en tête à Cotonou avec 21 élus communaux, suivi du PRD de Maître Adrien Rumbeji avec 13 élus. L'Union fait la nation de candidats Zanaï totalise 10 élus et le réseau Atao de l'un des dissidents du PRD s'incruste au conseil municipal de la ville avec un élu. Porto Novo, la capitale du Bénin, est totalement sur le joug du PRD qui prend la quasi-totalité des sièges du conseil municipal avec 32 sièges concédant un seul élu au FCBE, les forces coréennes pour un Bénin émergent, l'alliance qui soutient le président de la République. Cette alliance réussit tout de même à mettre sous sa coupe Parakou, la troisième ville du pays, avec 19 élus contre 5 pour l'alliance ABT et 2 pour l'alliance Soleil. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, lancement par Amnesty International mercredi d'une campagne de sensibilisation des candidats aux prochaines élections sur l'importance de la santé reproductive, notamment l'accès des femmes et des filles à la contraception. Le slogan de cette campagne, levons les obstacles. Plus de détails avec Kin Fatim Diop, chargé de campagne Afrique de l'Ouest à Amnesty International, au micro de Camille Gros-Didier.
On entend mobiliser l'ensemble des candidats pour qu'ils prennent en compte dans leur programme la situation des femmes et des filles au Burkina Faso. À la suite de nos recherches, on s'est rendu compte que les femmes au Burkina Faso et les filles rencontrent beaucoup d'obstacles pour accéder à la contraception, pour décider de leur corps, si elles veulent se marier, si elles ne veulent pas se marier. Et pour cela, nous avons lancé un manifeste qui a été co-signé par 31 organisations qui travaillent dans le domaine des droits sexuels et reproductifs au Burkina Faso. Et on leur demande de s'engager à bâtir un pays où la dignité de la femme est respectée, les droits des femmes sont respectés.
Pourquoi est-ce qu'il y a, par exemple, tant d'hostilité à laisser les femmes contrôler leur santé reproductive?
Alors, lorsque nous faisons l'analyse, nous avons plusieurs éléments et lorsque nous avons pu discuter sur le terrain avec les femmes et les filles, l'une des premières choses, c'est la distance. Souvent, en milieu rural, les centres de santé, les hôpitaux sont assez loin et les femmes doivent parcourir des kilomètres pour accéder à des méthodes de contraception. Le coût également est un élément parce que souvent, les femmes n'ont pas les moyens, mais également au niveau de l'attitude des hommes, on se rend compte très souvent que les hommes n'acceptent pas que leurs femmes prennent un produit de contraception. Souvent, la contraception est associée à l'infidélité, à la frivolité. Donc, les femmes prennent souvent en cachette les produits de contraception. Donc, il y a cette pesanteur socioculturelle qui fait que les femmes ont du mal aussi à accéder à la contraception.
Est-ce que les femmes sont mieux protégées par la loi, mais ces lois restent lettre morte à cause des coutumes?
Exactement. La Constitution au Burkina Faso reconnaît les mêmes droits pour les hommes, les femmes, les filles, les garçons. Malheureusement, quand on passe en pratique, on se rend compte que les femmes sont victimes de discrimination du seul fait qu'elles soient les femmes. Donc, par exemple, dans le cadre du mariage forcé, mariage des enfants, on se rend compte que 52% des filles sont mariées à l'âge de 18 ans. La loi qui cadre un peu le mariage ne prend pas en compte le mariage coutumier et beaucoup de filles donc sont mariées à 12 ans. On leur prend leur enfance, elles sont catapultées dans une vie d'adulte qu'elles ne veulent pas, elles sont retirées de l'école et sont forcées à se marier à des hommes qui sont souvent plus âgés qu'elles.
Kin Fatim Diop, chargé de campagne Afrique de l'Ouest à Amnesty International. Le président nigérian Muhammadu Buhari attendu dimanche aux États-Unis pour une visite de 4 jours. Des détails avec Jean-Roger Bion.
La guerre contre le terrorisme et la lutte contre la corruption seront au cœur de ces discussions lundi avec son homologue Barack Obama à Washington. Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre Boko Haram, affilié au groupe État islamique, une priorité de son mandat. Depuis sa prise de fonction le 29 mai, plus de 600 personnes ont été tuées dans de multiples attaques au Nigeria. M. Buhari va aussi rencontrer le chef d'état-major interarmé, Martin Dempsey, et le secrétaire adjoint à la défense, Robert Work, pour discuter du renforcement de la coopération militaire. Les États-Unis partagent des renseignements sur Boko Haram et avaient dépêché des conseillers militaires et civils pour tenter de retrouver les quelque 200 lycéennes enlevées à Chibok en avril 2014. Par la suite, les relations entre Washington et Abuja s'étaient un peu détériorées. Le Nigeria avait jugé insuffisante l'aide américaine contre Boko Haram, ce qui avait suscité une vive réaction du Département d'État.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Selon l'ONG Global Witness, des entreprises forestières internationales ont versé plusieurs millions d'euros à des groupes rebelles en Centrafrique pour pouvoir exporter illégalement du bois vers l'Europe. Bagassi Koura.
Dans ce rapport intitulé « Bois de sang », l'ONG Global Witness assure que des exploitants forestiers ont versé de l'argent aux rebelles Seleka ou Anti-Balaka qui contrôlaient des pans entiers de la Centrafrique. L'ONG met en cause trois groupes forestiers, l'un français, l'autre chinois et le dernier libanais. Global Witness appelle les États membres de l'Union européenne à rompre les liens commerciaux et l'aide au secteur forestier de la RCA qui peine à retrouver la paix. Mais Christian Farjo, conseiller auprès de la ministre des Forêts, affirme que tout est en cours de normalisation car les camions de bois sont maintenant escortés par la MINUSCA, la force des Nations Unies, en Centrafrique.
En RDC voisine, augmentation des violations des droits humains à l'approche des élections. Un constat fait par l'ONU. Eddy Sango.
Toutes les régions du pays sont concernées, a révélé hier les directeurs du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. José Maria Aranaz, les Nations Unies parlent entre autres d'une nette augmentation du nombre des restrictions aux libertés fondamentales par des agents de l'État, dont le respect est essentiel à la tenue d'élections crédibles. Monsieur Aranaz a toutefois fait part de la détente dans les relations avec les gouvernements congolais qui avaient expulsé son prédécesseur, Scott Campbell, après la publication d'un rapport dénonçant des bavures policières ayant coûté la vie à des dizaines de personnes du 19 au 21 janvier lors des manifestations de protestation contre une tentative de modifier la loi électorale.
Le président Barack Obama commence sous peu une tournée en Afrique où il se rendra au Kenya, dont le vice-président William Ruto est poursuivi par la Cour pénale internationale, mais plus le président Uhuru Kenyatta, et aussi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. La CPI est très critiquée par les leaders de l'Afrique qui l'accusent de ne juger que des Africains. Cette question sera-t-elle abordée pendant la tournée? Un début de réponse avec David Zunmenudosu de l'Institut d'études de sécurité à Pretoria, en Afrique du Sud.
Probablement, ce sujet va être abordé, d'autant que les poursuites contre M. Uhuru Kenyatta sont abandonnées pour le moment. Mais au-delà de ces sujets-là, je pense que la visite de Barack Obama servirait beaucoup plus à définir ou à donner son héritage en matière des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Et à ce sujet-là, je pense que ce sont les initiatives qu'il a prises tout au long de son mandat à travers l'initiative des jeunes leaders de l'Afrique, la question de Power Africa, une initiative pour fournir l'énergie électrique au continent africain et bien d'autres sujets qui vont, à mon avis, figurer au top de son agenda.
David Zunmenudosu à Pretoria en Afrique du Sud. Et puis les États-Unis ont soumis hier au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution qui entérine l'accord conclu à Vienne en Autriche mardi entre l'Iran et les grandes puissances. Claire Morin-Gibourg.
Ce texte valide l'accord de Vienne et remplace en fait les 7 résolutions adoptées depuis 2006 par l'ONU pour sanctionner l'Iran. Cette résolution prévoit une levée progressive et conditionnelle des sanctions économiques internationales imposées à l'Iran au fur et à mesure que Téhéran réduira sa capacité à fabriquer une bombe atomique. Elle maintient cependant un embargo sur les armes conventionnelles pendant 5 ans et une interdiction de tout commerce lié à des missiles balistiques ayant la capacité d'emporter des têtes nucléaires pendant 8 ans.
Et pour terminer, le sommet anti-pauvreté s'achève aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie. Voilà, c'est tout. Plus d'informations sur notre site internet voaafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.